Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois de juin consacrée à la promotion et à la défense des droits humains. Et pour ne rien vous cacher, bah, ce soir, autour du micro avec Claire-Lise, puisqu'il y a Claire-Lise avec moi dans le studio.
Bonsoir.
Et puis, il y a aussi quelqu'un qui n'est pas là, mais qui nous a envoyé un enregistrement que vous aurez tout à l'heure, et qui s'appelle Edith. Donc, on est trois, en fait, à animer l'émission ce soir. Et donc, c'est dans un climat bien spécial qu'on commence l'émission, parce que, bien sûr, le résultat des élections européennes de dimanche soir nous a tous un petit peu, comment dire, Ça s'appelle morale. Quand on est défenseur des droits humains et de toutes les valeurs que ça représente, le résultat de l'élection, effectivement, ça pose question. Et puis la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée et d'éventuellement permettre du fait qu'un parti non respectueux des droits humains, le Rassemblement national, pour ne pas le nommer, risque d'arriver au pouvoir, c'était une deuxième raison d'être particulièrement inquiet. Bon, une fois l'orage passé, on reprend le moral et on sait qu'on ne lâchera rien de toute façon. Et donc on va vous en parler ce soir, et puis on va vous parler aussi de la situation d'enfants. C'est Edith qui va vous en parler, de la situation des enfants en Russie, de familles qui s'opposent à la guerre et qui sont menacées à ce titre-là. On va vous parler aussi de résistance de la population civile en Chine, etc., etc. On va vous parler aussi de nos partenariats avec le Tangram, puisqu'on en a plusieurs cette semaine. Donc surtout, restez à l'antenne jusqu'à 20h. Mais c'est donc Claire-Lise qui va vous parler de cette histoire d'élections européennes.
Eh bien oui, il y avait longtemps que je vous l'avais dit, mais j'ai les boules, les croquettes, les miquettes, écoute bien Ronan, tout à la fois, voilà. Alors, passait l'immense tristesse de voir un parti d'extrême droite gagner ses élections européennes avec une telle avance, et la sidération, quelques minutes plus tard, d'entendre le président de la République dissoudre l'Assemblée nationale et offrir à l'extrême droite la possibilité de prendre le pouvoir à l'issue de ces élections législatives anticipées, il nous faudra faire face à un immense défi et faire union pour défendre haut et fort les valeurs des droits humains. Dans un contexte politique tendu et face à un parti au pouvoir qui maltraite les institutions depuis 7 ans et mène une politique brutale, méprisante, destructrice du lien social et gouvernant de façon de plus en plus autoritaire, les électeurs ont une réaction de rejet envers ce pouvoir et cherchent une solution nouvelle vers un parti qui n'a jamais exercé et qui incarne à leurs yeux la délivrance. Mais ne nous y trompons pas, cette extrême droite affable, dédiabolisée, n'a rien abandonné de son discours xénophobe, autoritaire, contre tous ceux et celles qui ne partagent pas ses projets politiques. Il nous est impossible de nous résigner à accepter la venue au pouvoir de ce parti porteur d'une violence politique et symbolique. Car ce Rassemblement national ne rassemble rien ni personne. Il divise depuis toujours et aujourd'hui, plus que jamais, il a ses cibles bien clairement identifiées et elles sont nombreuses. Car s'il parvenait au pouvoir, il simplifierait le code du travail, il réduirait à rien les cotisations sociales et le système de protection sociale, il privatiserait tous les médias et réduirait au silence toute voix discordante avec son propre discours. Il transformerait encore davantage le débat politique en une communication permanente qui se centrerait sur un seul thème, débusquer les traîtres, les antipatriotes, les ennemis de la France. Cette recherche permanente de coupables, cette volonté de purger le pays,
sont un fondement idéologique de son programme et de toute l'histoire de cette famille politique depuis des décennies. Depuis toujours, il n'y aura pas de trêve. Et puis dans l'ombre, l'ultra-droite qui attend en embuscade pour se mettre en ordre de marche et aller casser dans les banlieues. L'extrême droite au pouvoir conduit le peuple à se haïr et à se diviser. Elle ne veut que l'ordre par la terreur et la répression des minorités racisées de ce pays. De même, elle affiche un credo ouvertement anti-écologique, écologiste, et rejette toute responsabilité française dans les divergences, dans le dérèglement climatique. Et elle réduirait au silence les défenseurs de l'environnement et les militants écologistes. Elle prononcerait la dissolution des organisations de défense des droits humains et de l'écologie et ferait taire toute contestation. Alors, face à cette catastrophe à venir, il n'y a que les citoyens, appuyés sur les valeurs de solidarité, de liberté, de démocratie, qui peuvent se soulever et résister comme dans les grands autres moments de notre histoire. Dépasser les clivages et les oppositions, pour ouvrir un avenir commun, un socle commun inébranlable d'un peuple uni, fraternel, aux antipodes des chimères des nationalistes xénophobes. Il n'y a que le peuple, dans toute sa diversité et toutes ses composantes, de toutes origines, de tous les territoires de la République, appuyé sur ses valeurs de solidarité, de liberté, de démocratie, qui puissent se soulever et résister au pouvoir nationaliste et xénophobe. Oui, il nous faut faire front comme l'ont fait nos ancêtres en 1936. Nous n'avons d'autre choix que de nous lever pour être dignes de notre histoire avec les organisations syndicales, les associations, les mouvements de défense des droits humains, les luttes écologistes et sociales et les partis politiques pour éviter la catastrophe, pour conquérir de nouveaux droits et pour exercer notre souveraineté et pour faire vivre la démocratie. Alors je dois vous dire que ce texte, j'ai écrit des petits bouts, mais en fait j'en ai pompé beaucoup sur le texte d'un monsieur qui s'appelle Benjamin, et qui nous l'a envoyé par mail, hein, et que je remercie beaucoup pour sa clairvoyance et pour la netteté de cet écrit. Voilà. Donc oui, il faut s'unir, il faut résister, et c'est pas le moment de se laisser abattre, parce que le danger, il est là, il est à nos portes, et il faut s'unir pour résister.
Ben, merci Claire-Lise, et puis donc même si on rappelle qu'Amnesty International, dans sa mission, n'intervient que sur le terrain des droits humains et de la défense des droits humains, mais c'est déjà essentiel, bien évidemment. À ce titre-là, ne prend pas de position pour ou contre un parti politique ou une idéologie quelle qu'elle soit. Il est quand même de toute façon indispensable de rappeler que des partis politiques ont des programmes et des prises de position qui sont parfaitement antinomiques avec la Déclaration des droits humains. Donc à ce titre-là, effectivement, c'est normal, tout à fait normal de rappeler certaines choses. Donc moi, je vais vous faire un petit rappel, puisqu'on parle de droits humains, effectivement, de ce qui est dit. Je fais un signe à Claire-Lise, donc, parce qu'on a un petit souci de son dans le studio. Donc je voulais un petit rappel de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le texte de référence sur lequel se base Amnesty International, et vous faire comprendre. Alors j'ai sélectionné quelques phrases du préambule et quelques articles, et faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent, mais je pense que c'est déjà fait, mais c'est toujours utile de le rappeler, que, encore une fois, les prises de position des gens qui sont arrivés en tête des élections dimanche dernier ne sont en rien compatibles avec cette déclaration universelle. Donc voilà ce qu'elle dit, cette déclaration universelle. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, considérant que dans la charte des peuples des Nations Unies, considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et dans la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Donc voilà cet extrait du préambule. Et je vais vous lire...
Allez, vas-y, dis-nous les articles.
Je vais vous lire quelques articles. Alors, article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Et enfin, et ça va se, mon petit résumé va se terminer avec ça, c'est ces deux ou trois articles qui restent. Toute personne, article 26, toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir, toutes celles et ceux qui nous écoutent, à ces articles et à tous les propos qui sont tenus par certains candidats dans des élections à l'heure actuelle.
Donc, c'était Didier d'Amnesty International qui vous a relu les articles 9, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 28. J'ai une bonne mémoire.
C'est bien.
Non, j'ai triché, j'ai tout marqué au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais prendre la suite pour vous lire un petit communiqué d'Amnesty. C'est le billet d'humeur aussi, sur le site d'Amnesty, par rapport aux élections législatives anticipées en France. Un moment crucial pour notre pays et pour les droits humains. Dans la foulée des élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale et a convoqué des élections législatives anticipées prévues le 30 juin et le 7 juillet prochain. Ce retour aux urnes est un moment crucial pour notre pays et pour les droits humains. Nous savons l'importance considérable qu'a l'Assemblée nationale, cœur du pouvoir législatif, pour garantir à chacun et chacune le plein exercice de ses libertés et de ses droits. Or, ces libertés et ces droits sont de plus en plus fragilisés. C'est le constat alarmant que nous faisons depuis des années et qui s'aggrave à mesure que le narratif ultra-sécuritaire déployé par les responsables politiques successifs prend le dessus sur la défense des droits fondamentaux. Nous alertons sur l'état des libertés en France. En particulier, les entraves à la liberté d'expression, au droit de manifester et aux libertés associatives, et sur les risques majeurs liés aux technologies de surveillance de masse. Nous dénonçons le déni des autorités sur les discriminations raciales,
alimentée par des discours racistes et stigmatisants contre les personnes étrangères et ou racisées. La lutte contre ces discriminations doit être au cœur de l'action publique. Nous rappelons à prendre urgemment conscience des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'état de droit, alors que certains des responsables politiques n'hésitent pas à remettre en cause ou à piétiner des obligations internationales qui servent à protéger nos droits fondamentaux, décisions ou positions contraires à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Enfin, nous insistons sur le fait que la politique étrangère de la France doit être exemplaire en matière de respect du droit international. Elle doit mettre la protection des populations civiles et la lutte contre l'impunité au centre de son action dans les situations de conflit. Aujourd'hui, face à la montée en puissance des discours de haine et anti-droit, nous alertons sur le risque d'un recul de plus en plus important de nos libertés et de nos droits en France. Si nous défendons ces droits, ce n'est pas seulement parce qu'ils découlent des engagements internationaux de la France. C'est parce qu'ils sont le fondement d'une société apaisée, respectueuse de tous et de toutes, et permettant à chaque personne de réaliser ses aspirations et d'y jouer pleinement son rôle. Ils sont indispensables pour protéger nos libertés et notre dignité contre l'arbitraire. Ces droits ne sont pas acquis. Il est essentiel de continuer à se battre pour les protéger. Dans cette période d'incertitude, Amnesty International France appelle chacun et chacune à prendre en compte ces enjeux essentiels et à participer à ce moment politique crucial en exigeant des engagements clairs de ses futurs représentants ou représentantes pour défendre les droits de toutes et toutes et refuser des pratiques autoritaires. Dans les semaines qui viennent et au-delà, Amnesty International France restera mobilisée et vigilante quant au respect des droits humains et des engagements internationaux de la France. Voilà, c'était pour le petit billet qui a été publié hier sur le site d'Amnesty suite aux résultats des élections.
Voilà, donc nous on prend acte de ce qui s'est passé dimanche soir, effectivement, et de la décision du président de la République et des dangers que ça représente pour le respect des droits humains ici, chez nous. Donc on est très vigilants, on est quand même encore un peu inquiets, même si, voilà, faut pas non plus se considérer vaincu déjà de maintenant, loin de là, mais on est quand même très vigilants et un peu inquiets, mais qu'en aucun cas, quoi qu'il puisse se passer à l'issue de ces élections législatives anticipées, de toute façon, en aucun cas, nous ne baisserons les bras pour nos contacts, pour nos luttes et nos combats pour les droits humains. Et je sais que les amis dans les associations locales qui sont proches de nous et qui ont les mêmes motivations, je sais qu'on est tous d'accord pour continuer. Il est hors de question qu'on laisse tomber quoi que ce soit.
Les mots de Benjamin viennent d'une de ces associations locales.
Tout voilà. À fait.
Donc il faut rester les yeux ouverts et debout pour résister.
Et surtout, inciter, si vous connaissez des gens qui se sont abstenus pendant ces élections de dimanche dernier, parce qu'il y a quand même eu 50% d'abstention. Donc si vous connaissez des gens qui se sont abstenus, surtout incitez-les à ne pas le faire pour ces prochaines élections et à éviter la catastrophe qui pourrait nous arriver. On passe la première pause musicale et on se retrouve juste après.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien, gens de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris.
En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, 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 les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry, sans loup sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, loups, oh, 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 les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire Carousse, Liesse et Montmans dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. Pour la suite de son émission, on vient d'écouter, c'est Clarlys qui m'avait conseillé cette chanson, une chanson qui n'est pas toute jeune, une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle « Les loups sont entrés dans Paris ». Et si vous avez écouté les paroles, dans l'ambiance actuelle, c'est très facile de comprendre quelles sont les images qui sont utilisées et de qui il parle. Mais on se souviendra de cette dernière phrase de la chanson, « Les loups sont sortis de Paris, c'est tout le mal qu'on se souhaite ». Donc pour continuer l'émission, vous allez entendre Edith, alors qu'il n'est pas dans le studio, mais qui nous a envoyé un petit enregistrement, et ça parle de la lutte des opposants à la guerre en Russie et de leurs enfants. Donc j'envoie l'enregistrement tout de suite.
Un conflit qui dure entre la Russie et l'Ukraine. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la répression en Russie et les enfants qui sont la nouvelle cible des autorités. Alors, les enfants des parents qui s'opposent à la guerre en Ukraine encourent le risque d'être placés en orphelinat. Voilà l'une des méthodes de représailles des autorités russes pour écraser la dissidence. Une forme de répression peu documentée qu'Amnesty met en lumière dans de nouvelles recherches. Vos enfants iront à l'orphelinat. C'est le titre de notre recherche qui expose comment les autorités russes instrumentalisent les enfants et leurs familles pour les dissuader de s'opposer à la guerre en Ukraine. Parmi les méthodes employées, endoctrinement via la propagande de guerre, séparation des familles, menace de droits, de retrait des droits parentaux. En Russie, la menace est l'une des armes de répression du Kremlin. Et certaines familles russes n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays pour éviter des poursuites pénales ou une séparation forcée. Voici un témoignage. Varvarna Galinka a 10 ans. Sur sa photo de profil WhatsApp est affiché un dessin en soutien à l'Ukraine. Le 5 octobre 2022, la petite fille est interrogée par la police à Moscou. La raison de l'interrogatoire ? Sa photo WhatsApp et surtout l'absence de Varvara à un cours organisé par l'école qui avait pour but d'endoctriner les enfants et auquel Varvara ne s'était pas rendue. Résultat, perquisition du domicile et menace directe à sa mère, Elena Jolicoeur. La répression des autorités russes se déploie. Elena est obligée de participer à un programme de prévention pour les parents qui ne remplissent pas correctement leurs devoirs. Elena fait alors le choix de fuir la Russie avec ses deux filles, craignant d'être à nouveau persécutée. Je ne veux pas que ma fille vive une double vie et prétende qu'elle est d'accord avec le gouvernement et qu'elle soutient la guerre. Elena est en exil suite aux pressions des autorités russes sur sa famille. Un autre exemple, Maria Moskalyova a 12 ans. Dans son école à Efremov, en Russie centrale, elle fait un dessin hostile à la guerre alors qu'il lui avait été donné pour consigne par son école de faire un dessin en soutien aux troupes russes en Ukraine. L'administration scolaire fait immédiatement un signalement à la police. Le père et la fille sont ensuite tous deux immédiatement arrêtés. Son père, Alexei Moskalyov, qui l'élève seul, est condamné à une amende pour le dessin de sa fille. Le père de la jeune fille est ensuite condamné à une peine de 2 ans d'incarcération pour discrimination répétée aux forces armées russes à cause de commentaires postés sur les réseaux sociaux. À la suite de cette campagne de silenciation des voix anti-guerre de la famille Moskalyova, la jeune fille de 12 ans est séparée de son père et placée dans un orphelinat. Après un tollé général, elle a finalement été autorisée à vivre avec d'autres membres de sa famille, mais Maria est toujours séparée de son père, de force. Dans cette Russie, si vous êtes mineur et si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, la police, les tribunaux et même les écoles représentent une menace immédiate. C'est ce que dit Oleg Koslovski, chercheur sur la Russie à Amnesty International. En effet, les écoles endoctrinent les enfants. En visant les mineurs, les autorités russes viennent cibler l'éducation. Les écoles et les enseignants sont utilisés par le Kremlin comme des outils à part entière de leur stratégie répressive et d'ingérence arbitraire. Notre recherche démontre que les écoles endoctrinent les enfants avec de faux récits imposés par le gouvernement. Un système bien organisé, puisque le corps enseignant dénonce directement à la police et aux services de sécurité les enfants et les familles qui exprimeraient des opinions divergentes. Une fois repérées et dénoncées, les personnes qui s'opposent à la guerre sont visées par des mesures répressives comme le placement en institution, les arrestations arbitraires, les perquisitions et les poursuites pénales. Olev Skolsky rajoute, le chercheur sur la Russie Amnesty, un risque, même lointain, de telles représailles est une perspective suffisamment effrayante pour en dissuader beaucoup de s'exprimer. Ces mesures ont de graves conséquences sur la santé psychologique et physique des enfants qui souffrent notamment de troubles liés au stress et aux traumatismes causés par ces menaces. Les familles doivent aussi faire face à des répercussions financières, ce qui entraîne des difficultés économiques et peut perturber l'éducation des enfants. En Russie, les personnes prises pour cible pour avoir affiché leur opinion contre la guerre se comptent par milliers. Nous sommes à leur côté pour soutenir leur combat, que le Kremlin ne pourra étouffer. Et nous appelons les autorités russes à cesser de supprimer les droits parentaux, à cesser de placer les enfants sous la tutelle de l'État pour les punir d'avoir manifesté ou exercé leurs droits. Stop à la répression des lois anti-guerre en Russie. Ce texte est sur le site d'Amnesty International et on peut signer une pétition pour montrer notre désaccord.
Voilà, c'était donc la chronique consacrée aux atteintes aux droits humains et concernant les enfants et les familles des enfants qui s'opposent à la guerre en Russie et qui n'ont absolument pas le droit à la parole, faite par Edith. Maintenant, c'est Claire-Lise qui va vous parler de toute autre chose, mais elle va vous dire elle-même.
Je vais vous parler du pouvoir du micro. Alors, c'est un article qui est dans la chronique, donc le magazine des droits humains d'Amnesty International, la chronique du mois de juin 2024. Mais dans ce numéro de la chronique, si vous avez l'occasion d'aller le feuilleter sur le site, à la page 46 et 47, vous avez un article sur la vie du mouvement. Et nous sommes la radio de Principe Actif et le groupe Amnesty. Nous sommes en vedette, en double page de la chronique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, Grégoire est venu participer à l'émission. Donc c'était un journaliste qui travaille pour la chronique, pour Amnesty International. Et il était venu assister, enfin passer une journée avec nous et assister à notre émission. Et donc il nous a fait une double page. Page qui est super sympa, où on parle effectivement de tout ce que Amnesty fait depuis le début par rapport à cette radio avec Principe Actif, et puis aussi de la participation de la bourse de la Fondation Amnesty France, et du travail de la radio en faveur des droits humains qui est fait aussi par les animateurs de la radio, par JC, par Vincent, par Damien. Et là, il était question justement du club radio du Collège de Navarre avec Vincent, et puis de l'émission Fréquence Droits Humains que nous avions fait sur au Collège de Navarre. C'était au mois de mars,
février,
qui est dans les podcasts. Et donc, il y a une double page sur la vie de... dans la vie du mouvement sur la radio Amnesty et Principe Actif.
Mais comme on ne veut pas tirer la couverture qu'à nous, tu vas nous parler d'un autre projet radiophonique.
C'est ça, un autre projet radiophonique, mais j'avais quand même envie de vous le dire.
Oui, bien sûr.
Donc, parce que eux, ils ont deux pages, mais pas qu'ils ne suivent pas en double page comme nous. Alors, le pouvoir du micro. Donc, pour redonner confiance à des personnes précaires, Making Waves les forme à la radio. Cette association animera des émissions quotidiennes au Festival d'Avignon. Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis, un immeuble rétro, abrite un studio de podcast pas comme les autres. Dans un open space calme et lumineux, une douzaine de personnes en insertion réalisent des reportages et des récits radiophoniques. Au menu, des sujets sociaux et culturels commandés par des collectivités territoriales, des institutions et des clients privés. Créé en 2019, Making Waves incarne le projet d'un collectif de journalistes et de professionnels dans une démarche d'éducation populaire. Ici, c'est ma maison, confie Basma Nasser, 29 ans. Formée à la presse écrite et à la télévision au Yémen, elle souhaitait aborder des sujets comme le sida, l'homosexualité, la laïcité, les droits des femmes. Emprisonnée, en danger de mort, elle s'est réfugiée en France. Très attachée à son métier, Basma a postulé à Making Waves sans trop y croire. L'association accueille en permanence 11 personnes en insertion. Elles n'ont pas de profil particulier. Certaines étaient à la rue, d'autres sont des jeunes de moins de 26 ans orientés par les missions locales. D'autres encore sont sous main de justice, précise Mohamed Ben Saber, ce directeur du pôle insertion et éducation populaire, se veut attentif à la parité, au mélange des générations et au parcours de vie complexe. Chez Making Waves, on apprend en faisant. Clément Nouguier a quitté Radio France pour devenir responsable du studio de podcast et de la production. Systématiquement, il envoie les nouvelles recrues réaliser un micro-trottoir. À raison de 4 jours par semaine, les salariés maîtriseront la conception d'un projet radiophonique de A à Z. Le montage, l'habillage sonore, l'écriture, le travail de la voix. Plus que de former des professionnels de la radio, Making Waves vise à leur redonner confiance en soi. La radio, c'est un outil d'émancipation qui apprend à prendre la parole, à revendiquer le droit d'être écouté, entendu, et aussi le droit à la différence d'opinion, estime Mohamed Ben Saber. Ici, pas de questions convenues. Quand les apprentis journalistes interviewent l'ancien ministre Pap Ndiaye sur le harcèlement ou sur la déscolarisation, ils savent de quoi ils parlent. Actualité oblige, toute l'équipe a prévu plusieurs reportages sur les JO, notamment sur la place des Roms en Seine-Saint-Denis ou la vie en maison d'arrêt. « On passe notre temps à enregistrer le réel », résume Clément Nouguier. Les 2 ans de contrat offrent également une pause afin de retrouver un logement, de réfléchir à une formation, un projet professionnel ou personnel. C'est un temps pour réorganiser sa vie, complète Alexandre Planck, directeur éditorial et cofondateur. Certains salariés nous ont quittés pour aller vers un CAP, une formation en coiffure ou devenir coach sportif. En général, 4 personnes partent prématurément parce qu'elles ont trouvé un stage, un CDD ou un CDI. Elles sont immédiatement remplacées par les candidats en attente. À ce jour, le studio affiche 21 retours à un emploi stable depuis sa création. Casque sur les oreilles, Brandy Neumager finit de monter un podcast réalisé avec la radio francilienne Zebrock. La jeune femme, diplômée d'une école de cinéma, n'avait pas le réseau pour se tailler une place dans ce milieu très compétitif. « Ici, on nous laisse le temps de travailler sur nos projets », explique-t-elle. « La cohésion d'équipe est super. Les plus anciens, Momar et Jay, nous coachent. L'an dernier, Brandy a participé au projet « À la jeunesse, les micros » durant le Festival d'Avignon. Cela a été une expérience incroyable qui m'a aidée à savoir ce que je voulais devenir, analyse-t-elle. J'en suis revenue changée, je doute moins et je me mets plus vite au travail. Ma rencontre avec l'autrice Rebecca Chaillon m'a montré que le théâtre pouvait être engagé. Cet été, elle laissera la place à Basma, ainsi qu'à Clément, 24 ans, de Haute-Savoie, et Miguel, 21 ans, d'Avignon. Orientés par leur mission locale ou en service civique, tous deux ont participé à des formations avec Alexandre Planck et sa consœur Hélène Bensoussan pour se préparer au mini-marathon radiophonique qui les attend. « Je n'écoute pas beaucoup la radio et j'ai compris tout le travail que cela demande », explique Clément. « Ce n'est pas juste parler dans un micro. À Annecy, on a créé une émission à partir de rien sur le thème de la santé mentale des jeunes. » En 4 jours. Miguel a voulu participer au projet après avoir vu les images de l'édition de 2023. Un galop d'essai pour mieux s'exprimer, poser sa voix et s'entraîner aux entretiens d'embauche. Se rendre à Avignon sera aussi l'occasion de découvrir les coulisses du festival et surtout rencontrer des gens qui ne l'auraient jamais écouté autrement. Donc c'est un article d'Adélaïde Robot et Fréquence Avignon, ça sera l'émission, ça sera du 10 au 21 juillet. Making Waves animera des émissions quotidiennes de 18 à 19 heures dans le cloître Saint-Louis à Avignon. Donc l'équipe sera composée de 14 stagiaires venus de Seine-Saint-Denis, du Vaucluse et de la Haute-Savoie. Au programme, des reportages et des plateaux en direct pour recevoir des professionnels de spectacle, mais pas que. La première rencontre sera consacrée à la surveillance, en présence de Cathy Arrault et de Justine Payou d'Amnesty International France. L'intégralité des émissions sera retransmise par des radios associatives et étudiantes. Bon ben ça donne envie, hein.
Oui.
Faut qu'on dise à JC que nous aussi on veut bien aller à Avignon l'année prochaine. C'est ça. Tu le sentais venir celui-là.
C'est ça, oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, ce sera aussi, enfin, qu'on se renseigne. Mais je pense qu'il y aura des possibilités pour qu'on récupère toute ou partie de certaines de ces émissions pour illustrer les nôtres.
Non, c'est une plaisanterie Avignon, mais c'est vrai que la radio, c'est vraiment.
C'est une plaisanterie, mais enfin aller à Avignon, c'est sympa.
C'est vraiment un outil très très intéressant, autant dans l'éducation aux droits humains avec les jeunes. Des collèges, leur donner la parole et les laisser s'exprimer sur des sujets par rapport aux droits humains, mais aussi pour des personnes. Et je me souviens qu'il y a eu un moment sur l'émission Radio Principe Actif, il y avait une émission aussi avec des résidents qui étaient dans des services psychiatriques, qui avaient et c'était une très jolie émission. J'aimais bien les écouter.
Tout à fait. Et ce qui est dit, effectivement, nous, on le partage dans les émissions Fréquence Droits Humains. On vous rappelle que les podcasts sont dans la rubrique Fréquence Droits Humains sur le site de Principe Actif, principeactif.net. N'hésitez pas. Et comme tu le disais dans l'article, effectivement, et ce qui est vrai, quand on a fait aussi des émissions en direct du Collège de Navarre, c'est très éducatif pour tout le monde, y compris pour les jeunes qui y participent, sur tous les plans. Voilà.
Et n'oubliez pas la double page 46-47 de la chronique.
C'est ça.
Où c'est nous qu'on est.
Bon, je vais vous dire quelques mots sur la Chine, parce que je regarde la pendule et leur tourne comme d'habitude.
Ouais, je suis en train de faire le clown et je te fais perdre ton temps.
Non, mais il y a Amnesty France a publié sur le site, encore une fois, de amnesty.fr, dont on vous recommande chaudement d'aller régulièrement, sur lequel on vous recommande chaudement d'aller régulièrement vous informer. Et un petit récapitulatif des mouvements de contestation en Chine, parce que la Chine, bien évidemment, c'est un pays qui réprime beaucoup les droits fondamentaux, mais il s'y passe quand même des choses. Donc voilà cette petite chronique qui résume ce qui s'est passé depuis 1989. Le 4 juin 1989 est entré dans l'histoire comme le jour où les autorités chinoises ont impitoyablement réprimé des manifestations pacifiques. Les troupes chinoises ont abattu des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient descendues dans les rues, sur ou autour de la place Tiananmen de Pékin pour réclamer des réformes politiques. Une tâche indélébile sur l'histoire de la Chine. 35 ans après, le droit de manifester reste sévèrement limité en Chine. Toute discussion ou commémoration de la répression de 89 est lourdement censurée, les autorités qualifiant les manifestations de perturbation de l'ordre public. Sous la présidence de Xi Jinping, le président actuel, les restrictions se sont encore renforcées pendant les manifestations, rendant les manifestations extrêmement rares. Donc en 1999, il y a une manifestation du Falun Gong à Pékin. Plus de 10 000 adeptes du Falun Gong, un mouvement spirituel populaire en Chine dans les années 90, manifestent silencieusement à Pékin contre le harcèlement exercé par le gouvernement à l'encontre de ses membres. En réaction aux manifestations, le gouvernement chinois a interdit le groupe et lancé une campagne d'intimidation et de persécution sous la direction d'une organisation spéciale appelée le Bureau 610. Depuis l'interdiction du mouvement, des dizaines de milliers de pratiquants du Falun Gong ont été détenus arbitrairement et nombre d'entre eux ont été torturés. En 2011, manifestation pro-démocratie de la révolution de Jasmin. Les manifestations du printemps arabe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont trouvé écho en Chine. Des appels à manifester ont été relayés en ligne. Les médias affiliés à l'État ont qualifié ces rassemblements et ces manifestations de perturbations de l'ordre public. Plus d'une centaine de militants, souvent actifs sur Twitter et sur les blogs, ont été arrêtés, placés sous surveillance ou assignés à résidence de manière illégale. Certains sont toujours portés disparus. Entre 2012 et 2015, mouvement féministe. En 2012, un nouveau mouvement féministe est apparu, connu pour ses actions de rue et les manifestations pour les droits des femmes. Depuis, le gouvernement chinois a enclenché une répression systématique du mouvement féministe. Les méthodes utilisées comprennent des campagnes de dénigrement et de harcèlement des militantes, la fermeture des groupes sur le genre dans les universités et la censure de discussions en ligne sur les questions liées au genre et aux droits des femmes. En 2015, 5 personnes, membres de ce mouvement, ont été arrêtées et détenues. Aujourd'hui, Les militantes féministes chinoises poursuivent leur travail en s'organisant hors ligne et en militant à l'étranger. En 2012-2020, le mouvement des nouveaux citoyens. Le mouvement des nouveaux citoyens est un réseau informel d'activistes chinois fondé par le juriste Xu Jiong en 2012 pour dénoncer la corruption. Des dizaines d'avocats et de militants associés au réseau ont été pris pour cible après avoir participé à une réunion informelle organisée à Xiamen, une ville de la côte sud-est de la Chine, en décembre 2019. Le groupe dont faisait partie Xu Jiong s'était réuni pour discuter de la situation de la société civile et des affaires courantes en Chine. Plus tard dans le mois, la police a convoqué ou placé en détention les participants à la réunion de Xiamen. Xu et l'avocat des droits humains Ding Zai ont été condamnés respectivement à 14 et 12 ans de prison en avril 1923. Bon, je vais résumer un peu la fin parce qu'on est pris par l'heure. Et donc, on vous en avait déjà parlé des autres. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup de manifestations en Chine, effectivement, des manifestations contre la politique zéro Covid. On vous en avait déjà parlé dans d'autres émissions qui ont été aussi elles-mêmes violemment réprimées, ces manifestations, ainsi que les manifestations organisées à Hong Kong pour commémorer jusqu'en 1923 le massacre de la place Tiananmen. Et depuis, effectivement, 1923, de toute façon, toute manifestation à Hong Kong aussi est interdite. Voilà. Et donc, ce petit rappel des actions pour la liberté en Chine qui sont lourdement réprimées appelle aussi sur le site d'Amnesty, donc il faut le faire, à signer pour une avocate qui est en prison pour justement, à l'heure actuelle, avoir commémoré le massacre de la place Tiananmen. Donc elle s'appelle Chou Hongtong et il faut aller signer en ligne sur le site d'Amnesty pour demander sa libération.
Parce que les signatures, ça marche.
Voilà.
Et donc j'ai une bonne nouvelle, moi, qui vient
c'est
de
ça.
Chine.
C'est ça.
Tu l'attendais aussi ?
Oui, je l'attendais.
Donc c'est la bonne nouvelle du jour, il y en a quand même au moins une. Zhang Xian est libre, donc enfin libre. Donc le 22 mai dernier, c'est avec émotion que nous apprenions la libération de la journaliste citoyenne emprisonnée depuis 4 ans dans des conditions déplorables. Donc vous êtes plus de 120 000 à avoir témoigné votre soutien et demandé la libération aux autorités chinoises de cette jeune femme. Un grand merci pour votre mobilisation et le soutien que vous apportez en tant que membre d'Amnesty International France. Condamnée en 2020 pour avoir informé la population des avancées de la pandémie de Covid-19, Zhang Xian a régulièrement été torturée. Ayant entamé une grève de la faim, la journaliste a été enchaînée et a été alimentée de force. Bien que libérée, il est probable que Zhang Xian soit surveillée de près par la police. Nous craignons que les possibilités de voyager en dehors de Chine ou d'entrer en contact avec des personnes ne soient fortement restreintes. Nous demandons donc aux autorités chinoises de veiller à ce que Zhang Xian soit complètement libre, qu'elle et sa famille ne fassent pas l'objet d'une campagne de harcèlement ni de surveillance. Son arrestation et son emprisonnement ont constitué une flagrante violation de ses droits fondamentaux. Sa libération doit marquer un nouveau départ pour la journaliste qui a défendu, au péril de sa vie, le droit à l'information. Malheureusement, de nombreuses personnes dans le monde subissent des violences et vous pouvez nous aider à agir pour eux. Agissons ensemble pour défendre les droits de ceux et celles qui en ont plus le besoin. Et merci de votre soutien.
Voilà, on passe tout de suite à la deuxième pause musicale parce qu'on est déjà très en retard.
Ouais.
Et on se retrouve...
Pour les infos locales.
Pour les infos locales, juste après.
Voilà.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue, y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir...
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on s'excuse auprès de Renaud, on a été obligé de chanter un peu sa chanson qui n'est pas récente, hein. Vous aurez peut-être remarqué qu'il parle encore de la guillotine en France, qui heureusement a été supprimée depuis.
Mais j'aime bien le couplet.
Oui, je sais bien.
Parce qu'on ne dirait pas qu'il est allemand le...
Donc,
sur
voilà.
Son trône.
Là, vous aurez compris aussi que ce choix de chanson, c'est Clarisse qui l'a fait. C'est aussi en référence par rapport à tout ce qui se passe actuellement en France. Voilà. Donc, pour terminer l'émission, on va passer directement à notre actualité locale. Donc, la semaine prochaine, cette semaine, on est, je ne dis pas de bêtises, non, c'est cette semaine, on est, je ne sais plus comment je vis, on est partenaire de deux spectacles du Tangram, c'est dans le cadre du Mois des Fiertés. Donc le premier s'appelle Pink Machine, il a lieu vendredi 14 à 20h au Cube. Et voilà le petit résumé qui est fait par nos amis du Tangram. Symbolisé par l'arc-en-ciel, juin est le Mois des Fiertés. Le 28 juin 69 à New York, un raid de la police dans le club gay Stonewall provoqua plusieurs jours de manifestations. L'année suivante naissait la première marche des fiertés, commémorant le premier anniversaire des émeutes. Un jour qui changera à jamais la lutte pour les libertés et contre l'oppression. Un mois pour célébrer tout individu, quel que soit son genre, son orientation sexuelle ou ses origines. Un mois emblème de la poursuite de l'égalité et de la justice pour toutes et tous. À l'heure où la haine et le harcèlement continuent à faire des ravages, où les actes homophobes et transphobes redoublent de violence et se démultiplient, nous vous invitons à découvrir deux spectacles. Donc l'un, Pink Machine, explore notre relation affective aux icônes féminines dans la culture pop sous la forme d'un cabaret. Lady Gession, Baby Ftech et Trashy Polata ont fait dans le jeu de mots bilingue et gastronomique chez les drag queens, du moins chez celles qui officient sous la baguette de Pinkessa, leur maîtresse. Nous sommes dans ce spectacle dans un cabaret où Pinkessa demande à ses invités de rendre hommage à leurs icônes féminines. Dans cette mise à nu périlleuse et douloureuse de la relation aux féminités, les singularités sont mises à mal, la machine se grippe, le rire jaunit, l'aventure tourne court et il reste aux trois apprentis stars à devenir à leur tour des icônes. Pas si simple. Les fantasmes, les attentes, les rêves et les dérives sont passés à la moulinette incisive du show, furieusement grinçant et décapant. L'effet loupe, tendance démesure, les clichés virevoltent sur la boule à facettes, sous l'illusion, le maquillage et les paillettes, l'intime. Tout n'est pas rose dans la machine à laver les stéréotypes. Donc ça, c'était le premier spectacle. Et le lendemain, on est également partenaire, on sera présent avec un stand sur un autre spectacle, et c'est à 17h le samedi 15 juin au théâtre, qui s'appelle « Comment avouer son amour quand on ne sait pas les mots pour le dire ?» Sur scène, des chaises de collectivité orange disposées en demi-cercle. Parmi la quinzaine de personnes qui y prennent place, il y a Les, Manu et Nico. Derrière eux, un écran sur lequel défile une galerie de portraits, puis une caméra sur le plateau joue du gros plan sur les artistes, révélant les traits. Regard blessant, touchant, intrusif, agressif. Tout le propos est là, dans ce regard de l'autre, dans les mots jetés, dans les mots tus. Les auteurs du spectacle ont dressé une liste de 18 lignes et plus de 100 insultes. Pédé, pédale, gouine, tartouze. La ligne des substantifs est longue. Ils sont accompagnés d'adjectifs complaisants, aggravants, sales, petites, grosses. Des mots souvent banalisés, déviés, balancés à tort, bien sûr, et surtout de travers. Des mots reçus en pleine tête, en plein cœur, par les trois témoins de la pièce. Nico, le petit gars de province amoureux de ses potes. Manu, la lesbienne tête brûlée. Et Les, la Lolita qui choisit les bras de femmes mûres. Toutes des bombers, toutes des malotone boys, toutes concernées par la fuite du jeune garçon du clip interprété par Jimmy Somerville. Après Parpaing, présenté à la saison dernière au Tangram, ce deuxième volet creuse la trace de la faille intime du regard et des mots qui excluent. Le spectacle est nourri de rencontres, d'échanges, d'expériences, d'enquêtes et de recherches. Il en résulte des vérités partagées, à bon entendeur. Voilà, donc on est présent aux deux spectacles. Donc vendredi 14 à 20h au Cube et le lendemain samedi 15 à 17h au théâtre. Et il y avait Clarlise qui voulait vous parler de quelque chose qui se passe, je crois, le 30, mais juste avant, on aura une émission de radio.
Oui,
Fréquence
alors,
Droits Humains.
Fréquence Droits Humains, le 20 juin, c'est justement, ça tombe bien, c'est sur le thème des réfugiés, de l'accueil des réfugiés, et ce sera le jour de la Journée mondiale des réfugiés. Donc, Fréquence Droits Humains, on ne sait pas encore exactement où ça va être, mais c'est à Évreux, c'est en public, de 18h à 19h30, on a des invités qui vont venir, et c'est ouvert à tous, on vous viendra à la matinale
sinon,
pour vous dire.
Il faut consulter la page Facebook qui s'appelle Fréquence Droits Humains où il y aura l'information. Voilà.
Et le 30 juin, nous faisons notre foire au livre. Donc sur l'espace, à l'espace Saint-Léger, on ressort, c'est encore le bazar, on ressort tous les bouquins. On a besoin de bénévoles le matin parce que forcément, on n'est pas toujours assez nombreux. Donc on en a déjà quelques-uns qui nous ont dit qu'ils seraient là pour venir nous aider. Dans la bonne humeur, on installe les tables, on installe les bouquins, on fait signer des pétitions toute la journée pour défendre les droits humains. Alors venez acheter des livres pour l'été. Et donc nous, on cherche aussi des bénévoles le matin et le soir pour nous donner un petit coup de main. Et puis voilà. Et puis pour faire connaissance et puis pour passer une belle journée pour la défense des droits humains. Ouais. Donc le 30 juin, bourse aux livres, espace Saint-Léger à Évreux.
Voilà. Et on rappelle que cette bourse aux livres permet aussi au groupe d'Amnesty Évreux de se financer puisque par déontologie et par principe et pour avoir les mains entièrement libres, Amnesty International, quel que soit le niveau de la structure, ne fait jamais de demande de subvention à quiconque. Donc c'est le public, et entre autres cette bourse aux livres, qui permet de trouver l'argent nécessaire pour qu'on puisse fonctionner. Voilà, on va laisser l'antenne à Manu pour le laboratoire qui vient d'arriver dans le studio, on le salue. Et puis donc on se retrouve.
Et puis gardez bien les yeux ouverts.
Voilà.
Et puis pour ceux qui veulent, il y a une manifestation samedi 15 à 15h, place Mendel, pour faire front, tous unis. Tout ce qu'on disait tout à l'heure.
J'avais pas l'information.
Voilà. Bah, elle est arrivée pendant que.
D'accord.
Pendant l'émission.
Bon, voilà. Nous, on pourra y faire un saut rapide parce qu'à 17h, on sera au théâtre. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, mais on va se partager. Donc voilà. Encore une fois, on n'arrêtera pas les luttes pour les droits humains, même si le climat actuel en France est très compliqué, bien évidemment. On se retrouve, nous, sur l'antenne de Principe Actif le mardi 25 juin pour la dernière émission de la saison. Je précise bien de la saison, pas du tout pour la suite. On sera de retour sur l'antenne après la pause estivale au mois de septembre. Donc voilà, si vous voulez nous contacter et nous soutenir, le mail evreux@amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr, et puis bien sûr n'hésitez pas à aller sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr, pour vous renseigner et voir tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses. Voilà, on laisse l'antenne, on vous souhaite une bonne soirée. Donc Clarlise va vous souhaiter aussi une bonne soirée, je n'en doute pas.
Bonsoir, voilà. Et gardez les yeux ouverts.
Voilà, et surtout gardez le moral, même si c'est des fois un petit peu compliqué, il n'y a pas de raison. Voilà, à très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.